Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Jour J pour les retraites. La réforme sera présentée cet après-midi par Elisabeth Borne. Puis la Première ministre ira aux 20h de France 2 avant de répondre sur notre antenne aux questions des téléspectateurs à 20h30. Les téléspectateurs, forcément inquiets. 4 Français sur 5 rejettent cette réforme. L'Info C'est Clair est intitulée « Retraite, pouvoir d'achat, trop, c'est trop ». Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. À la une des Échos aujourd'hui, retraite, les derniers arbitrages. Vous nous en parlerez. Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info, à la Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales. À la une de la Tribune, retraite, le soutien timide du patronat agace le gouvernement. Et puis Jade de l'Éprevier, vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions économiques. En une de l'Opinion aujourd'hui, les retraites, également la réforme qui déboussole les Français. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, cette réforme sera présentée cet après-midi en conférence de presse à 17h30. Quelles en sont les grandes lignes ? Éléments de réponse avec Kevin Elias.
Ce n'est plus un secret pour personne. L'âge de départ à la retraite sera bien repoussé et devrait s'établir à 64 ans contre 62 actuellement.
Ça me semble pas exagéré en fait. 64 maintenant, ça dépend du métier. Il y a tellement de paramètres que... Mais sur le principe, je vois pas vraiment le problème.
J'espère qu'il repoussera toute sa réforme parce que la retraite, elle devrait être à 60 ans. Et même, pourquoi faire travailler des vieux travailleurs alors qu'il y a des tas de jeunes qui sont au chômage.
Mais alors, qui sera concerné ? A priori, tous les salariés encore en activité aujourd'hui. Par exemple, ceux nés en 1961 qui auraient pu partir cette année devront, si la réforme est adoptée, travailler 3 mois supplémentaires. Les autres verront leur âge de départ en retraite progressivement s'allonger. Il faudra aussi cotiser plus longtemps, 43 ans contre 42 aujourd'hui. Un allongement déjà prévu, mais qui va être encore accéléré. Il pourra toutefois y avoir quelques exceptions. Les fonctionnaires qui occupent un emploi à risque pourront toujours partir avant les autres, mais avec un décalage, là encore, de 2 ans. Pour tenter de faire accepter sa réforme, le gouvernement envisage de rehausser la petite retraite à 85% du SMIC pour une carrière complète, soit 1200 euros par mois pour tous les nouveaux retraités. Enfin, afin de concilier les voix de la droite au Parlement, l'exécutif n'exclut plus désormais de revaloriser aussi les pensions des actuels retraités.
Alors Dominique Seux, le gouvernement voulait prendre son temps pour faire œuvre de pédagogie. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Sondage Odoxa ce matin pour Challenge. Le rejet augmente. Hein. Êtes-vous favorable à un départ à 64 ans ? Non à 80% et à 65 ans, non à 83%.
Le gouvernement aurait peut-être dû aller à 65 ans puisqu'il y a si peu de différence
oui.
entre les deux. Mais je ne crois pas qu'on puisse retrouver dans l'histoire un sondage montrant que l'opinion est favorable à une réforme des retraites. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit on va augmenter le prix de l'essence pour sauver le climat. Ok, c'est bien, mais en fait, les gens sont quand même contre. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a qu'une catégorie qui est toujours favorable à la réforme des retraites, sont les retraités pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ont peur qu'on désindexe ou qu'on baisse leur pension. Donc, ils préfèrent qu'on durcisse un peu les règles pour les futurs, les actifs qui vont rentrer en retraite. Donc, il n'y a rien de très surprenant dans l'hostilité. Est-ce que le gouvernement a pris son temps pour faire de la pédagogie ? La réponse est il a pris son temps, oui, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de pédagogie depuis le mois de décembre ? Non, parce qu'on a assez peu vu sur les plateaux de télévision, le vôtre, sur à la radio, dans la presse écrite, on a assez peu vu de membres du gouvernement ou d'experts proches de lui qui défendent avec beaucoup d'arguments trapus, fouillés, la réforme. Donc en fait, ce temps a été probablement gagné pour la négociation avec LR, mais il n'a pas été gagné pour faire la pédagogie de la réforme. Même le mot pédagogie, bon, doit être appris un peu avec des pincettes, parce qu'on a l'air toujours de considérer que les Français sont un peu des imbéciles à qui il faudrait expliquer la réforme des retraites. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Mais les grands éléments de cadrage économique n'ont pas été donnés, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais Fanny Guinochet, il y a aussi une petite musique qui s'est installée dans le pays. Est-elle vraiment nécessaire, cette réforme des retraites ? On nous dit, à l'horizon 2027, hein, je parle un peu sous votre contrôle tant il y a de chiffres, mais il va manquer quoi ? Une dizaine de milliards ?
12 milliards.
12 milliards sur 300 milliards de dépenses. Je cite en plus quelques grands... Il n'y a pas que les syndicalistes qui s'interrogent sur la nécessité. Je cite Michel-Édouard Leclerc, dimanche au grand jury RTL. « Je suis comme les Français ». J'ai pas pigé cette réforme, et je cite votre journal La Tribune, le soutien timide du patronat agace le gouvernement, comme si c'était presque un caprice présidentiel que de repousser l'âge à 64 ans.
Alors, c'est vrai que sur le fond, le bien fondé de la réforme, et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Français qui aujourd'hui sont dans l'opposition, il n'a pas été très clair, parce que le gouvernement, à mon sens, a perdu la bataille de l'opinion, parce qu'il a été pas très clair sur ses intentions, sur la nécessité, sur où allait l'argent. Ok, les Français se rendent bien compte. Par exemple, l'argument de l'espérance de vie, oui, l'espérance de vie, le nombre d'actifs, l'argument démographique, il est intangible. Il y a moins de gens aujourd'hui d'actifs qui financent le régime par répartition. Ça, personne ne peut dire le contraire. En revanche, combien exactement il faudrait en fonction du taux de chômage, en fonction des prévisions économiques? Alors là, vous regardez le rapport du COR, vous avez des scénarios avec des scénarios à des taux de chômage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connus. C'est très compliqué. Ensuite, ok, on engrange des milliards d'euros en décalant l'âge de départ, puisque c'est ce qu'on nous dit, c'est vraiment la façon qui rapportera le plus d'argent le plus vite, c'est de décaler l'âge légal de départ d'un an, deux ans, trois ans.
Ça rapporte une trentaine de milliards.
Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Au tout début, Emmanuel Macron nous dit que ça va financer le grand âge, c'est-à-dire la dépendance. Ça reste un peu dans la question des retraites. Les gens de 80 ans, on était sortis de la crise des EHPAD, on avait vu quand même la nécessité de mettre de l'argent ou de revoir ce système, ou en tout cas de s'en préoccuper pour que la fin de vie, elle se passe au mieux. Ensuite, on nous a dit, le président lui-même a dit, ça va aller pour financer la transition écologique, la santé, l'école. Et puis, aujourd'hui, on nous dit, mais non, en fait, finalement, c'est pour le régime des retraites. Donc, c'est vrai que les voix, elles sont discordantes. Et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, on a une opposition aussi forte, même si, et Dominique Seux le disait, personne, les réformes des retraites, ça a toujours fait, ça a toujours suscité de l'opposition. Mais là, quand même, ce qui marque, c'est que l'opposition, elle est quand même très forte, c'est que quand même vous avez un Laurent Berger qui pèse ce qu'il pèse, il n'a pas beaucoup d'écho, on le voit au sein du gouvernement, mais il dit on n'a jamais eu une réforme aussi dure en 30 ans. Et puis aussi, la vraie question, et je pense que c'est pour ça que les Français y sont si opposés, c'est une retraite pour qui? Est-ce que ça va être juste? On nous parle de contrepartie, on va en parler. Mais les contreparties sur la pénibilité, on attend de voir. On va les détailler. Hein. Mais je pense que cette question des contreparties, on a l'impression que la partie salée, elle est bien claire. La partie un peu plus sucrée, elle l'est nettement moins.
Alors, c'est vrai qu'il y a la question. Alors, imaginons, elle est nécessaire, cette réforme. Ensuite, comment la fait-on? Et il y a la question de la justesse. Jade de l'Éprouvier, on a l'impression qu'en agitant ce curseur qui est l'âge légal, on fait une réforme injuste. Je m'explique. Tous les cadres, de toute façon, ils devaient partir après 64 ans. En revanche, les ouvriers en première ligne, ils ont commencé très tôt. Bah, eux, pour eux, ils vont se prendre l'allongement de plein pot, c'est-à-dire véritablement, si c'est 2 ans de plus, ce sera 2 ans de plus avant de partir à la retraite.
La question de la justice, on peut la voir de deux manières. En fait, il y a d'une part la justice intergénérationnelle entre les générations. Et il y a la question de dire que les retraités d'aujourd'hui ont un niveau de vie supérieur à celui de la population et qu'en gros, du fait du vieillissement démographique, nous, enfin moi, quand je serai retraité, il y aura moins de gens pour payer ma retraite, il y aura moins d'actifs. Donc je risque d'avoir une retraite inférieure. En fait, selon le Conseil d'orientation des retraites, le niveau de vie des retraités va passer à 80%. Il va baisser par rapport à celui des actifs. Donc entre les générations, si aujourd'hui on ne fait rien, il risque d'y avoir une injustice pour les prochaines générations qui aujourd'hui cotisent. Donc par exemple, moi, je cotise pour des retraités, mais moi, quand je serai retraité, peut-être qu'en fait, je subirai une injustice parce que bah, j'aurai cotisé pour d'autres, mais qui cotisera pour moi? Il y aura moins de monde, donc peut-être que j'aurai une retraite plus basse. Ça, c'est la justice entre les générations. Et ensuite, comme vous le soulignez, il y a aussi la justice entre toutes les personnes actuelles qui cotisent et qui vont subir cette réforme. Est-ce que c'est juste entre eux? Et en effet, en fait, il y a un phénomène où quand vous repoussez l'âge de départ à la retraite, bah, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, forcément ceux qui sont par exemple moins diplômés, bah, travailleront plus longtemps que ceux qui étaient plus diplômés, qui ont commencé à travailler plus tard. Ça, il y a quelque chose qui l'altère un peu, c'est le fait qu'on augmente la durée de cotisation. Par exemple, du coup, même les plus diplômés vont quand même cotiser plus longtemps. Mais là-dessus, ce que le gouvernement essaye de faire, c'est de dire on va avoir des mesures pour la pénibilité, les carrières longues. Donc lui, il va essayer en effet d'alléger cette injustice entre les moins diplômés et les plus diplômés.
Alors ça, c'est ce que révèle votre journal ce matin, Dominique Seux. Si j'ai bien lu, vous avez eu des informations sur ce qui sera annoncé cet après-midi concernant les carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans.
Alors ce système des carrières longues existe déjà. Mais
il y a beaucoup de Français qui en profitent.
20%.
20% des retraités.
C'est pas rien du tout. Au total, l'âge légal, vous savez, on en parle beaucoup, mais il ne concerne pas la majorité des Français qui partent à la retraite. 36% des Français qui partent à la retraite partent avant l'âge légal. 30% à l'âge légal et le dernier au-delà des 62 ans. Donc, on est déjà dans un système qui est...
On se focalise sur ce pivot.
On se focalise sur ce pivot, mais en fait, vous avez beaucoup de variétés. Alors, le gouvernement va accentuer le système des carrières longues et il va muscler un dispositif des carrières super longues. Les gens qui ont commencé, par exemple, à travailler à moins de 19 ans, entre 15 et 19 ans, pourront partir 4 ans avant l'âge légal de 64 ans. Donc, ils continueront, comme aujourd'hui, à partir autour de 60 ans. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est... Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que pour les carrières longues, il n'y aura automatiquement, au bout de 44 ans de cotisation, vous avez le droit de partir, quel que soit votre âge. Donc, c'est une réponse à la critique qui est faite, vous savez, notamment par les syndicats et la gauche, de dire « Votre réforme est tellement injuste qu'elle va faire en sorte que des gens vont travailler 47 ou 48 ans. » Non, ce ne sera pas le cas. Personne ne travaillera 47 ou 48.
Donc il y a deux curseurs. Avant 19 ans, on part à 60.
Mais
et 44 ans, on peut partir en
retraite. C'est pour ça que je pense que...
Non, pas c'est compliqué quand même tout ça.
Absolument. Non, mais l'angle mort, l'angle mort, je pense que la réforme ne va pas changer énormément de choses, ou quasiment rien, pour les ouvriers qualifiés et les ouvriers peu qualifiés. Elle ne changera pas grand-chose pour les cadres. En revanche, elle va changer quelque chose pour... les professions, les classes moyennes, typiquement quelqu'un qui est titulaire d'un BTS, qui a commencé à travailler à 20-21 ans. Là, à ce moment-là, l'allongement va jouer. Et donc, il y aura une année ou une année et demie de plus. Et donc, c'est la grande question mise en avant par la CFDT de dire, attention, une fois de plus, ce sont les classes moyennes, ces classes moyennes, le ventre du salariat, qui va être en difficulté.
En tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire, quand on part en retraite à 62 ans, maintenant, on se dit qu'il va falloir durer jusqu'à 64 ans. Ce sont des âges où souvent, on est moins vaillant. Et donc, se pose la question dans quelles conditions va-t-on travailler quand on approche les 64 ans, le travail des seniors. Vous voyez ce sujet qui montre deux cas. C'est Marie Justet et Soigny Thiébault.
Avec la réforme des retraites, les seniors devraient travailler plus longtemps. Mais des salariés de plus en plus âgés, est-ce vraiment compatible avec l'actuel marché du travail ? Dans l'Essonne, ce fabricant de matériel électronique a pris les devants. Henri Boulas, 62 ans, monteur-câbleur de métier, assemblait des disjoncteurs pour les trains.
C'est simple, c'était 50 par semaine. Donc il y avait une cadence à suivre, quoi. Je commence à être fatigué, moi. Bon, avec l'âge que j'ai 33 ans de maison, donc, en plus.
Depuis deux ans, il a troqué son tournevis contre cette machine et un nouveau poste, moins fatigant pour son âge, agent d'entretien. Pour lui, pas de problème, il peut travailler plus longtemps.
S'il faut faire quelques mois de plus, je les ferai, quoi. J'aurai pas le choix, de toute façon. Ça me rassure, puis non, j'ai pas de difficulté, là. En fin de compte, j'ai juste à marcher, c'est tout.
À l'origine de cette évolution, le directeur de l'entreprise. Un quart de ses salariés sont des seniors. Ils peuvent changer de poste si besoin. Un aménagement impossible dans cette fonderie. Alexander Strelkov, 61 ans, façonne de la cire, du bronze ou, comme ici, du plâtre à longueur de journée. Avec la réforme, il devrait travailler quelques mois de plus.
Beaucoup. Morceaux, après faire les sapes. Pour...
C'est un long travail.
Ah oui.
Des matières lourdes, des positions éreintantes et pas de poste de substitution. Seulement cette machine électrique et une aide physique ponctuelle de son patron.
Justement, on le fait à deux parce que c'est potentiellement lourd.
Mais on a déjà changé tout ce qu'on pouvait changer, à peu près, à ma connaissance, encore une fois, pour soulager les artisans. La machine ne peut pas remplacer tout dans l'homme.
Des salariés seniors peu nombreux. Entre 60 et 64 ans, ils sont seulement 35% à occuper un emploi.
Fanny Guinochet, on comprend que ce soit angoissant pour nombre de ces métiers très physiques que de se dire on m'en rajoute 2 ans. En fin de vie, quand j'aurai plus de 60 ans.
C'est pour ça que Elisabeth Borne, normalement, devrait essayer de corriger, d'adoucir un peu sa copie de ce point de vue-là. C'est notamment le dispositif carrière longue et super carrière longue dont parlait Dominique Seux. Mais c'est vrai que l'autre angle complètement mort de cette réforme, c'est aussi l'emploi des seniors. Votre reportage le dit très bien, 35% des 60-64 ans aujourd'hui qui sont en emploi, que ce soit dans des métiers difficiles ou même dans des métiers plus qualifiés, moins pénibles physiquement. La question pour beaucoup de Français, c'est de se dire, est-ce que je vais avoir du travail jusqu'à 64 ans, finalement ? Parce qu'on voit bien, et on l'a encore vu très récemment, après la crise Covid, les premiers qui étaient sur la liste des plans de départ, c'était les seniors. Seniors, à partir maintenant, c'est 55-57 ans. Tout ça, ce faisant, il ne faut pas juste dire que c'est le patronat, uniquement les employeurs qui poussent les salariés au départ. Ils le font, pas tous évidemment, mais souvent c'est aussi dans des négociations avec les syndicats où c'est plus facile, c'est en tout cas mieux accepté socialement de proposer.
On fait des deals, on va vous mettre au chômage.
On vous met au chômage 2 ans, 3 ans, on joue sur l'assurance chômage, qu'est-ce que vous alliez à la retraite ? Et que vous touchiez vos droits à la retraite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a aussi durci les conditions de l'assurance chômage. Donc, je pense que pour un certain nombre de Français, y compris des cadres, c'est aussi de se dire, est-ce que je vais avoir du travail jusqu'à 63, 64, 65 ans ? On va voir où le curseur va tomber, même si a priori, ce sera 64 ans. Et c'est vraiment ça, le sujet. Et dans la loi, on va voir cet après-midi, mais dans la loi, il y a un index senior, un peu sur le modèle de l'index homme-femme sur l'égalité professionnelle, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 50 salariés devront faire le point régulièrement pour dire combien de seniors elles ont embauchés, quelles actions elles ont mises en place pour les recruter, pour les accompagner, pour accompagner ceux qu'elles ont dans le... Pour l'instant, on va voir si c'est très contraignant. De vous à moi, l'index homme-femme, c'est peut-être été une amélioration, mais enfin, on n'en voit pas non plus les effets sur le salaire des femmes ou sur la progression de carrière des femmes de façon très, très manifeste. Donc, on peut se dire que... Et là, c'est vraiment le cœur du problème, parce que repousser l'âge de départ, il faut qu'il y ait du travail jusqu'à la fin. Quoi.
J'ai hâte de l'éprouver. Est-ce que... oui, on doit repenser notre approche du travail des seniors, ou bien est-ce que, parce qu'on l'a aussi constaté lors des précédentes réformes, quand on recule de 2 ans l'âge de départ, finalement, le réflexe des patrons, c'est de vous garder malgré tout 2 ans de plus. Enfin, on décale le problème, mais 2 ans plus tard.
Un argument des économistes, c'est que les réformes Fillon, par exemple, de 2003, qui ont eu des effets les années suivantes, à chaque fois qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite et qu'on a allongé la durée de cotisation, ça a eu un effet et ça a augmenté le taux d'emploi des seniors. Donc on fait quand même pression sur le marché du travail. Mais le corps l'explique très bien, c'est qu'au début, quand on fait ce type de réforme, on déséquilibre aussi le marché du travail. Et il y a un risque, par exemple, qu'au début, le chômage augmente et que du coup, les salaires baissent un peu. Et en fait, ça se lisse dans le temps. Petit à petit, cet effet sur le chômage se réduit et on a plus de gens en emploi. Et pareil, les salaires, ça se régule. Mais c'est sûr que au début, c'est un choc sur le marché du travail et il y a quand même des risques un peu sur l'emploi. Et c'est aux entreprises aussi, en effet, et aux partenaires sociaux de travailler pour que ce taux d'emploi des seniors augmente. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est on rappelle beaucoup ce sondage de la majorité des Français sont contre la réforme des retraites. Mais il y a d'autres sondages qui sont parlants, notamment un de la DRES, donc le service statistique du ministère de la Santé, qui montre que les gens qui étaient très mal informés sur leur droit à la retraite, la moitié, avec le recul, auraient préféré partir plus tard pour avoir une retraite plus élevée. Donc on parle beaucoup de ces chiffres. Évidemment, quand on dit aux Français « Ah, est-ce que vous voulez travailler plus longtemps ?» si c'est dans des mauvaises conditions pour le même prix, non. Mais en fait, quand vous voyez ce que vous... Et beaucoup de gens sont mal informés sur leur droit à la retraite. Quand vous voyez ce que vous avez Et ben en fait, vous êtes la moitié à vous dire, ben en fait, moi j'aurais bien voulu travailler plus longtemps pour avoir plus. Et donc il faut bien se dire que là, ce qu'on essaye de faire, c'est de préserver le système de retraite à long terme. Et peut-être que si on fait rien, et ben en l'occurrence, on aura des retraites moins élevées. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dira, ben zut alors, je préférerais travailler plus longtemps. Donc il faut se méfier aussi des chiffres qu'on regarde tout seul. Il faut regarder le problème dans sa globalité.
Ce que vous me dites, c'est que la complexité du système fait qu'on on a du mal à le comprendre et
le
que du coup, on se
oui.
dit, bon,
chaque
plutôt
mois,
je pars, mieux je me porte. Quoi.
Chaque mois, vous payez des cotisations, mais au final, chacun est incapable de dire combien il va gagner en retraite parce qu'on n'a pas de système à point. Enfin, c'est très compliqué.
Ouais.
Et donc, c'est comme si vous achetiez un produit financier à la banque. Elle vous dit, ah, bah, le rendement, vous verrez bien dans 40 ans, mais personne n'achèterait ce produit. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, le système français est tellement complexe que, bah, oui, vous payez des cotisations, mais vous ne savez pas combien vous aurez de retraite.
Dominique Seux.
Alors, à partir de 55 ans, sur le site de la CNAV, on trouve, alors je suis concerné, on trouve assez facilement
alors,
les
c'est
données.
Efficace.
C'est très bien fait. Honnêtement, il faut reconnaître que c'est très bien fait.
Ah bon, bah, voilà.
Non, mais on trouve assez facilement. Alors, il faut avoir complété sa carrière ou que les informations soient remontées. Enfin, elles remontent automatiquement. Mais on trouve des données assez... Sur l'emploi des seniors, moi, je ne partage pas tout à fait le pessimisme ou le diagnostic qui est souvent fait. Je crois que si le taux d'emploi des seniors est faible entre 55 et 64 ans, c'est d'abord parce que l'âge de la retraite est plus bas qu'ailleurs. Si les gens partent plus tôt en retraite, il est assez logique qu'il y ait moins de gens.
Donc mécaniquement, si on relevait cet âge...
D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté après toutes les réformes, notamment celle de 2010. Entre 55 et 60 ans, le taux d'emploi est à peu près semblable à ce qu'il est dans les pays voisins. En revanche, entre 60 et 64 ans, c'est assez logique, puisque notre taux de départ à la retraite est de 62 ans. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons construit un système collectif qui n'incite pas tellement à la poursuite de l'activité. Vous avez un système d'indemnisation du chômage qui, je ne dis pas qu'il est favorable ou défavorable, mais il permet aux entreprises et aux salariés de conclure un deal, notamment avec la rupture conventionnelle, et pour avoir 3 ans d'indemnisation du chômage.
Et des deux côtés, les salariés comme les patrons, ils voient leur intérêt
c'est
de partir avant.
Je ne dis pas que c'est la majorité des cas, mais il y a de toute évidence, ça joue beaucoup. Et on voit beaucoup d'entreprises, notamment de grandes entreprises industrielles, qui continuent.
Les fameuses pré-retraites, quoi.
Mais oui, mais qui ne sont plus financées par l'État, mais qui sont financées par les entreprises. Je pourrais citer 5 cas de grandes entreprises qui font partir à 60 ou 60 ans et demi des salariés qu'elles vont payer jusqu'à ce qu'ils aient acquis leur trimestre.
Fanny Guinochet, néanmoins, quand on voit ce sondage, 4 Français sur 5 qui rejettent cette idée de devoir travailler plus longtemps, est-ce que ça ne doit pas nous interroger sur notre rapport au travail, comme si la retraite était une libération et le travail un asservissement?
La difficulté, c'est un peu comme les 35 heures, c'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas envie de partir à la retraite parce que leur travail, c'est un épanouissement, c'est un lien social.
On ne les voit pas beaucoup dans les sondages.
On ne les voit pas beaucoup, mais vous en avez quand même pour qui. Et puis, vous en avez d'autres pour qui c'est extrêmement pénible, effectivement, dans des conditions de travail. Et la difficulté d'une mesure de politique publique, c'est de prendre une décision qui s'adapte à tout le monde, avec les corrections éventuelles qu'on peut faire ici ou là. Mais effectivement, c'est ça la difficulté. Vous avez des métiers où vous voyez ne serait-ce que certains télétravailleurs, c'est peut-être plus facile. La difficulté quand même, je pense quand même que les employeurs doivent vraiment réfléchir avec les syndicats sur les accompagnements de fin de carrière, c'est-à-dire des systèmes un peu en sifflet où vous travaillez moins longtemps. Ça on n'est pas très en pointe en France.
Mais on a l'impression, pourquoi est-ce si compliqué à mettre en place?
Alors, parce que c'est plus facile pour un employeur de vous faire un temps plein, que de faire monsieur machin, il aimerait bien partir le mercredi pour pouvoir voir ses petits-enfants, pour accompagner son père ou sa mère qui est dans le grand âge. Et c'est vrai que ça, on commence à le faire. Je ne dis pas que les entreprises ne le font pas. Peut-être qu'elles vont le faire à l'occasion de cette réforme. Mais c'est vraiment là l'enjeu. Quand vous regardez les modèles que l'on prend des pays nordiques, souvent vous avez, ne serait-ce que dans le temps de travail, la possibilité de moduler en fonction de l'âge. Et ça, c'est peut-être une des clés.
On ne sort pas à 20 heures.
Non, mais c'est une vraie particularité française. C'est-à-dire, on l'avait déjà vu avec l'affaire du chômage partiel. En 2008, les syndicats et le patronat considéraient « on est dehors ou on est dedans ». On a découvert pendant la crise du Covid, qu'on pouvait mettre en chômage partiel. On a un pied encore dedans tout en étant dehors. Eh bien, pour la retraite, il faut faire exactement la même chose. On peut être dedans et un pied dehors en même temps.
Alors, cette réforme a de particulier qu'elle concerne tous les travailleurs, puisqu'elle elle concerne toutes les générations nées après 61. Et les générations nées après 61, ce sont les gens qui ont aujourd'hui, c'est un hasard, 61 ans. Et donc, ce qui a fait dire ce matin à Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, que ce... Bah écoutez, plutôt que de dire ce qu'il va dire, je vous propose de l'écouter.
La réforme des retraites proposée par le gouvernement est une réforme dure, extrêmement violente. Elle s'appliquera dès cet été. Ceux qui avaient prévu leur pot de départ au mois de juillet fini, ils devront, si cette réforme passait, travailler 4 mois supplémentaires.
Alors là, il n'y a pas de clause du grand-père, Fanny Guinochet. C'est-à-dire que ça ne concerne pas ceux qui vont commencer à travailler. C'est ceux qui ont 61 ans, on leur dit... Ah bah tiens, voilà, je vais pas...
Alors c'est au deuxième semestre, hein, faut être né 1er août 1961. Mais effectivement, il a parfaitement raison, il n'y a pas de clause du grand-père.
C'est donc pas un ça risque,
va,
ça.
Ça va chambouler, si, c'est en ça que la pilule peut sembler particulièrement amère, parce que d'habitude, on prévoit quand même un plus de temps. Là, vous imaginez, on est en janvier et cet été, vous allez devoir travailler un peu plus longtemps.
À mon avis, ce sera le 1er octobre.
Voilà, à mon avis, ils vont faire quelques petits aménagements. Mais peut-être qu'ils s'en gardent un peu sous le pied.
Pour en lâcher.
Pour la négo. Mais c'est vrai que la génération 61, ça, c'est quelque chose de nouveau. On voit que le gouvernement, pour le coup, veut... Et on y revient, faire rentrer de l'argent assez vite dans les caisses, parce que c'est aussi ça. Alors, il joue aussi sur un élément qui est un peu nouveau par rapport aux autres réformes, en tout cas les dernières qu'on a connues, c'est qu'on est en période d'emploi, où en tout cas, il y a des demandes qui sont très fortes en termes d'emploi. Alors, est-ce que ça va changer la donne? En 2010, ce n'était pas le cas. En 2010, quand on a changé l'âge de 60 à 62 ans, c'était la réforme Woerth, on était encore dans les années tout de suite après la crise de 2008 et il y avait un chômage de masse. Dans les années 90, c'est les années où je suis rentrée sur le marché du travail, excusez-moi, mais on rentrait même qualifié avec des emplois jeunes de Martine Aubry parce que tellement il n'y avait pas de boulot. Il faut aussi se souvenir. Alors, c'est vrai que...
Là, du coup, l'argument qui consiste à dire mais il faut nous mettre à la retraite, comme ça fera de la place pour les jeunes, cet argument...
Nous, on l'entendait beaucoup, mais c'est vrai qu'il est un peu moins fort. Ouais. Après, c'est vrai que la question que ne pose pas, et c'est la question tabou dans ce pays, et Jade l'a souligné, c'est finalement les retraités quid. Parce que les générations qui arrivent aujourd'hui vont travailler plus longtemps. Les générations comme la mienne vont travailler un peu plus longtemps, mais ont eu pas mal de périodes souvent à trous, parce qu'il y a eu du chômage, des périodes de précarité. On n'a pas signé le CDI à 23 ans comme nos grands-parents. Et finalement, bah, ceux qui sont contre la réforme, c'est ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Et je suis navrée
pour la réforme.
Et je suis navrée de le dire parce que souvent ça fait tiquer. C'est une somme globale, mais macroéconomiquement, les retraités d'aujourd'hui sont plus fortunés que les actifs.
Et d'ailleurs, Jade de l'Éprouvier, est-ce que politiquement, on ne peut pas s'étonner de ce que Emmanuel Macron, au début, avait eu tendance à vouloir chouchouter les salariés et il avait commencé par réduire la CSG des retraités en disant oh, mais. Finalement, les retraités
ceux qui gagnaient plus de 2000 euros,
voilà, avaient un niveau de vie supérieur. Alors après, il avait dit, je ne vous prends pas pour un jambon, mais enfin bref, on sait. Alors que là, on a l'impression qu'au contraire, il y a presque électoralement l'envie de chouchouter les retraités qui, on le sait, votent, sont très assidus quand il s'agit de voter le dimanche.
Bah, c'est vrai que, oui, quand il y a des analyses sur l'électorat d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a des retraités et que c'est ceux qui votent le plus, donc, alors que les jeunes votent peu. Et sur cette question d'équité entre générations, c'est une vraie question. Il y a des libéraux qui ont ce discours provocateur de dire en fait ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est baisser les retraites des retraités actuels, en tout cas les retraites des retraités aisés qui ont un fort patrimoine immobilier, par exemple, qui ont beaucoup profité de la hausse des prix de l'immobilier alors que maintenant ça baisse, et qui sont plus avantagés par rapport à toutes les générations suivantes. Mais c'est un peu le tabou, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement n'osera baisser les retraites des retraités actuels. Et il y a cette suspicion de est-ce que c'est pour des raisons électorales.
Mais on aurait pu jouer un petit peu sur le, le niveau des retraites pour
C'est
coup.
Ce que certains libéraux disent que oui, il faudrait jouer sur le niveau des retraites qui sont confortables aujourd'hui.
Puisque je crois que le niveau de vie des retraités est supérieur au niveau de vie des Français.
Hein, il est de 101% par rapport au niveau de
la moyenne des
Français,
niveaux de vie des Français.
Notamment parce que ils ont de l'immobilier qui a été remboursé, donc ils ne payent pas de loyer. Voilà. Ils se sont enrichis, ils ont un patrimoine en fait qui est assez élevé. Et même si les pensions sont un peu inférieures à ce que sont les salaires, en fait, ils ont un niveau de vie meilleur.
Il y a une autre catégorie qui a été chouchoutée. Il n'y a pas simplement les retraités. Il y a, vous avez évoqué la clause du grand-père. Quand on pense clause du grand-père, on pense immédiatement aux régimes spéciaux de retraite. Vous avez RATP, SNCF pour ceux qui sont encore en poste, et EDF. La réforme s'appliquera dans 60 ans.
Oui, parce
dans
que
43 ans,
43 ans.
En 2060.
Voilà.
C'est-à-dire les régimes spéciaux.
Parce que là, il y a la clause du grand-père. Voilà, hein.
Donc ça s'applique, la suppression des régimes spéciaux de
retraite à la SNCF
s'applique pour ceux qui rentrent maintenant. Et pour eux, donc, donc ça, au moment de leur retraite, c'est dans assez longtemps. Ça représente en gros entre 5 et 10 milliards d'euros. C'est-à-dire entre la moitié et un tiers des besoins de financement de la retraite.
Alors, Fanny Guinochet, face à tant d'hostilité, 80% des Français qui sont contre, quel va être le jeu des syndicats? Et rêvons un peu, même si la CFDT, si Laurent Berger disait finalement, je me rallie à cette idée qu'il faut faire la réforme de la retraite, pourrait-il, sachant qu'il y a une base, il y a 80% des salariés qui sont contre. Donc, de toute façon, n'est-il pas illusoire de vouloir espérer se mettre dans la poche un syndicat?
Je crois que c'est illusoire parce que pour d'autres raisons. Mais même là, la CFDT a l'air quand même assez remontée contre cette réforme. Il y a un front syndical uni qui va se réunir dès ce soir. Ils ont prévu de le faire. Donc on n'a pas vu ça depuis 2010 avec toutes les organisations, les grandes organisations syndicales, mais aussi des associations pour définir d'une mobilisation. Donc ça sera probablement une ou deux grandes journée d'action dès le mois de janvier. Maintenant, est-ce que ça va porter? En 2010, on avait vu des grandes mobilisations, jusqu'à 1 million de Français dans la rue pour s'opposer au passage aux 62 ans. Là, ça ne sera certainement pas le cas. On va voir, il y aura des grèves du côté des régimes spéciaux, tout de même, hein, même s'ils sont moins impactés.
Donc des grèves
du côté de la RATP, de la SNCF, mais là aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire que la retraite, c'est aussi une façon de se mobiliser contre la concurrence, contre un certain nombre de réorganisations dans l'entreprise. Mais ce que vous disent un peu en coulisses les leaders syndicaux, c'est que certes, ils vont essayer de mobiliser, mais déjà, ça ne fera pas forcément infléchir le gouvernement. Et puis d'autre part, est-ce que les Français vont suivre? On est en période d'inflation, qui peut aujourd'hui perdre beaucoup de journées de salaire quand déjà, pour un certain nombre de Français, vous n'arrivez pas à finir votre mois? Pour quel résultat? Aujourd'hui, les dernières grandes mobilisations, la loi El Khomri, etc., n'ont pas vraiment... Ce qui risque de se passer, c'est plutôt s'il y a des mobilisations, en tout cas, on ne sait pas. La crainte, c'est de mouvements qui viennent doubler les syndicats, qui partent sur des mouvements corporatistes. On en a vu, hein, quelque part, les médecins, c'est un mouvement corporatiste. Les contrôleurs à la SNCF, c'était aussi un mouvement corporatiste. Donc, c'est difficile de dire, mais... Quoi qu'il en soit, même s'il y a une grosse mobilisation, je pense que, par exemple, le mois de concertation qu'il y a eu avait plus destination à séduire la droite, les LR, qu'à essayer de mettre dans la poche des syndicats, y compris la CFDT.
Alors, Dominique, c'est votre point de vue sur la réaction des Français. Est-ce qu'on va vers une France paralysée en janvier-février avec des syndicats ou peut-être qui seront débordés, mais des Français qui iront se battre parce que, comme on dit, la retraite est le capital de ceux qui n'en ont pas?
C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'il y avait un besoin financier. La thèse selon laquelle c'est l'épaisseur du trait, il n'y a pas de déficit, ça ne marchera pas. En revanche, il y a une sorte de relativisme ambiant. Et ça, c'est, je pense, un obstacle considérable pour le gouvernement. C'est-à-dire que pendant le Covid, on a dépensé 200 milliards, et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Contre la hausse des prix de l'énergie, l'État français a dépensé une centaine de milliards d'euros. Et là, pour 15 à 20 milliards d'euros, on oublie de dire par an, mais pour 15 à 20 milliards d'euros, les Français peuvent se dire, attendez, je ne comprends pas. Voilà. Donc à mon avis, cette affaire de relativisme est un obstacle pour le gouvernement. Et donc on revient à la façon dont il va présenter la copie ce soir et demain, et notamment sur votre antenne, ce soir à partir de 20h30.
On a été mal éduqué au quoi qu'il en coûte là pendant
mais exactement.
Ces années.
Alors, est-ce qu'il aurait fallu avoir quelques années de plus entre le quoi qu'il en coûte et on voit d'ailleurs, on l'a vu encore la semaine dernière sur le prix de l'énergie, qu'entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, ministre des Finances, il y a une appréciation un petit peu différente de la façon dont il faut refermer cette période du quoi qu'il en coûte. Et donc, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je crois quand même que c'est l'affaire de la justice qui sera la clé pour savoir si ça prend ou pas dans la rue. Est-ce que les Français ont l'impression que cette réforme, fondamentalement, elle est perçue comme juste? Je parlais des classes moyennes. Ça va être un sujet central. Les régimes spéciaux, les mouvements SNCF, RATP, ils sont sûrs, ils sont assurés, de toute façon, il n'y a aucun doute. Et notamment sur l'histoire de la concurrence. La RATP, EDF, ça c'est aussi. Absolument. Et EDF la aussi. Crainte. Donc, il va y avoir de la. On est pour 3-4 semaines de grève ou de perturbation dans les transports. Il faut se souvenir qu'en 2019, il y a eu 57
pour vous
ou 58 jours de grève dans les transports.
Donc, on va avoir 3 semaines. Donc, il faut se préparer à un mois de février compliqué d'ailleurs si
un
on veut
mois
partir.
De février, c'est compliqué.
Pour
oui.
les vacances de.
Oui.
De
bon. Mais. Dernier point, effectivement, et Fanny Guinochet l'évoquait excellemment, est-ce qu'on va avoir des mouvements type SNCF Noël, c'est-à-dire des gens qui, je ne sais pas s'ils doublent les syndicats, parce que les syndicats avaient quand même déposé le préavis, mais est-ce qu'on va avoir des francs-tireurs dans tous les sens? Ça, l'avantage de notre métier, c'est que nous ne savons absolument pas ce qui peut se passer, donc ça nous fera beaucoup de commentaires à la fin.
Et on ne ressortira pas les bandes si on a dit des bêtises, c'est aussi un autre avantage. On est très prudent. Jade de Léprévier, de toute façon, Emmanuel Macron, quelque part, il ne peut pas reculer, il a déjà reculé sur la réforme à points. Il s'attend à ce qu'il y ait du grabuge, il s'attend à ce qu'il y ait, et quelque part, il aura un trophée de « j'ai bien réformé, la preuve, regardez le bazar que j'ai mis dans la rue ».
C'est ce qu'on expliquait dans l'opinion, c'est que pour lui, c'est devenu une obsession, cette réforme des retraites. Enfin, ça fait très longtemps que c'est important pour lui de la faire, que de toute façon, c'est...
Politiquement ?
C'est quand même un consensus économique qu'il faut faire cette réforme. La France est un des derniers pays à avoir un âge de départ à la retraite aussi bas. Tous les autres pays sont plutôt autour déjà de 65 ans, d'ailleurs, plutôt que 64.
67 en Italie.
Et lui, il se voyait comme le président réformateur. Au final... Ces deux quinquennats, il y a eu plein de crises qui étaient non anticipées. Donc là, ça y est, il y va avec cette réforme et c'est devenu vraiment une obsession. Toute la question, c'est il la vend un peu différemment maintenant parce qu'au final, pendant sa campagne, il disait en effet, ça permettra de dégager des marges de manœuvre budgétaires. Et puis là, ils ont changé de stratégie en disant chaque euro économisé sur les retraites ira aux retraites. Mais derrière, il y a quand même cette question pour lui... De dégager d'autres économies qui viendront à plus long terme en augmentant l'activité, en augmentant l'emploi. Donc c'est au cœur de sa politique économique de dire je vais créer plus d'emplois, je vais remettre la France dans les bons rails budgétaires. En fait, si on regarde les économies permises grâce à la réforme des retraites, il y en a de deux types. Il y a celles en effet qui permettront de financer uniquement le régime, qui sont de l'ordre de en gros 18 milliards d'euros qui financeront le déficit et les mesures d'accompagnement. Mais à plus long terme, comme il y aura plus de gens en emploi, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a dit qu'il y aura 12 milliards d'euros à horizon 2027 de recettes en plus qui, là, n'iront pas aux retraites, qui iront à d'autres politiques publiques et notamment au déficit. Et là, ils insistent un peu moins là-dessus parce que ça leur a été retourné par les oppositions comme une attaque en disant « Ah, vous faites ça pour Bruxelles ». Mais le fait est qu'on attend que cette réforme dégage d'autres pistes d'économie.
Voilà, de ce point de vue, c'est vrai que c'est la mantra d'Emmanuel Macron, il faut travailler plus pour payer notre système social que nous chérissons tant et qu'il faut léguer à nos enfants.
Oui, oui, ça c'est clair que c'est le mantra, mais la question de Bruxelles, elle n'est pas négligeable. Hein. On a présenté une copie à la Commission européenne qui montrait qu'on réduisait les déficits, notamment par les réformes assurance chômage et retraite. Et dans le rapport aujourd'hui avec nos voisins allemands, cette question des retraites, elle est très importante. Nous, on le voit un petit peu moins, mais quand vous discutez avec des experts, en tout cas européens, ils vous disent oui, les Allemands, ils attendent. Hein. Donc, dans la question du couple franco-allemand qui bat un peu de l'aile sur un certain nombre de sujets, comme les sujets de l'énergie, de présenter, de dire bah oui, nous aussi, on est passé à 64 ans, et puis peut-être qu'un peu plus tard, ça sera à 65, alors que l'Allemagne est plutôt à 66 versus 67, 68 même. Ça facilitera normalement la discussion. Et ça, c'est vrai que ça pèse aussi sur Emmanuel Macron, qui est dans une stature internationale, qui veut peser aujourd'hui en Europe, qui veut préserver, j'ai envie de dire, le couple franco-allemand, notamment face aux Américains, face aux Chinois. Ça joue. Donc ça, c'est un élément important du choix aussi.
Dominique Seux, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, non ?
Non, c'était sur le mouvement social. Donc je reviens un petit peu en arrière. Il y a quand même, on a évoqué les obstacles pour le gouvernement et les difficultés, que ce soit le relativisme budgétaire, etc. Il y a je crois un avantage quand même, c'est que l'idée des 64 ans est dans l'air depuis quand même 4 ans maintenant. L'âge pivot d'Édouard Philippe, c'était 64. Donc l'opinion entend 64, c'est pas complètement nouveau. Donc peut-être qu'une partie de l'opinion, c'est à dire, bah oui, mais on le savait déjà, quoi, en gros. Donc
c'est peut-être ce et les arguments qu'on entend, si on voit que partout autour de nous, c'est 65, 66, 67, en Italie 67, vous disiez l'Allemagne va,
alors,
va vers
c'est
67.
Vrai, il n'y a aucun doute là-dessus que les âges légaux sont différents et que les âges légaux ailleurs sont plus élevés et les âges effectifs de départ sont plus élevés aussi. La réserve qu'il faut avoir sur ces points de comparaison, c'est que la signification du mot « âge légal » n'est pas la même selon tous les pays. L'âge légal en France, c'est l'âge avant lequel vous ne pouvez en théorie pas partir. Dans beaucoup de pays voisins, l'âge légal, c'est celui du taux plein. Donc c'est un peu différent. Quand on compare notamment la France et l'Allemagne, il faut faire attention à ce genre d'heure. Mais au total, c'est vrai que la France est atypique sur un indicateur qui est, à mon avis, le plus pertinent, c'est que c'est en France que la durée passée à la retraite est la plus longue de l'ensemble des pays de l'OCDE.
Alors, cette réforme des retraites s'inscrit dans une crise aiguë du pouvoir d'achat qui, on le sait, est devenue la préoccupation numéro un des Français, hein, devant le chômage. Conséquence de cette inflation, eh bien, de plus en plus, on voit apparaître des enseignes low-cost qui se multiplient, des enseignes que nous ne connaissions pas il y a quelques années. Vous voyez ce sujet d'Agnès Giraud-Carlier et de Mathieu Drejoux.
Ils sont néerlandais, espagnols, danois et même brésiliens. Des magasins à bas prix nouvelle génération, déterminés à conquérir le marché français. Alors, que peut-on y trouver? Les prix sont-ils toujours attractifs?
Un gros rouleau de sopalin à 2 euros, alors qu'en magasin, c'est 6-7 euros en fait. Donc c'est beaucoup moins cher. Tout ce qui est produit d'entretien, c'est moins cher.
Il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre, quoi. Ailleurs, mais ici, si.
Nous allons comparer nous-mêmes les tarifs dans ce magasin en banlieue parisienne, une marque fraîchement arrivée d'Espagne. Dans les rayons, cosmétiques, entretien, alimentation, souvent à prix cassé. Ici, une pizza Regina est à 4 euros. La même est vendue près de 6 euros dans une enseigne concurrente. Pour ces biscuits apéritifs, 1,25 euros ici. Plus de deux fois le prix dans un magasin d'une autre marque. La clé de ces prix tirés vers le bas, beaucoup de références étrangères sur les étagères, mais aussi des produits que les industriels n'ont pas vendus et qu'ils déstockent. Le discount revient en force en France. 4 magasins pour Prima Prix. Un prochainement pour l'enseigne brésilienne Atacadão, propriété de Carrefour. Et déjà 82 magasins pour le danois, Normal. Dans ce magasin en Ile-de-France, la spécialité, les rabais. Pour comprendre, le responsable de la marque nous emmène en réserve.
Combien tu veux de cartons?
Deux cartons, s'il te plaît.
Ok.
Ici, pas d'intermédiaire. Un seul fournisseur pour tous ces magasins européens.
Tout l'intérêt, c'est d'acheter vraiment en masse. Donc ça, là où j'aurais peut-être acheté à différents fournisseurs dans différents pays et j'aurais acheté, je ne sais pas, 1000 pour chaque marché, là, je vais pouvoir acheter 10 000 d'un coup et donc avoir un meilleur prix. Ça, c'est acheté sur le marché scandinave. Et donc, on va réétiqueter ici, juste avec un petit peu de texte en français.
Selon un cabinet d'études, près d'un tiers des foyers français iraient dans ces magasins pour acheter des produits de grande consommation.
Alors, Fanny Guinochet, on est tous ravis de faire des économies, mais est-ce que ça ne nous renvoie pas à notre propre situation? C'est Jérôme Fourquet qui dit « je suis ce que je consomme, bah, je suis une enseigne low cost, je consomme une enseigne low cost
bah, ». De plus en plus de Français y vont, hein, c'est ce que montre très bien votre reportage. Les changements de consommation sont assez impressionnants en ce moment, ça va assez vite. Les Français se privent de certains produits, font des arbitrages tout simplement pour que... Après, ça peut générer de la... une sorte de rancœur aussi, puisque les marques, c'est ce qui fait rêver, c'est on va se payer de temps en temps une marque pour ce que ça véhicule, hein, et la publicité est très bien faite pour ça, hein, il y a des as du marketing qui vous vendent tout le rêve qu'il y a autour d'une marque, et puis de vous rabattre sur le produit de distributeur, eh bien c'est le quotidien, sachant que la plupart des grandes enseignes, Carrefour, pour ne citer qu'elles, mais Leclerc, etc., en ce moment, sont en train de muscler leur marque distributeur. Aujourd'hui, c'est un tiers, voire quasiment dans certains magasins, la moitié de leurs produits qui sont ce qu'on appelle ces marques MDD, c'est-à-dire les pâtes Carrefour plutôt que les pâtes Barilla, pour donner un exemple extrêmement simple. Sauf que quand vous achetez des pâtes Carrefour, vous ne payez pas toute la publicité, vous avez moins de packaging, etc. Et aujourd'hui, les grandes enseignes sont en train de faire ce virage. Sachant qu'en plus, côté inflation, on verra ce que ça va donner, mais actuellement, je rappelle qu'il y a les négociations entre les industriels et les fournisseurs qui se tiennent, et elles sont extrêmement dures. Donc, si en plus, de ce côté-là, les prix continuent d'augmenter, eh bien, les gens vont continuer à se rabattre, ou en tout cas à faire ce choix un peu contraint de ces marques.
Et alors du coup, Jade de l'Éprevier, après le quoi qu'il en coûte, maintenant le gouvernement a décidé de cibler les aides en multipliant les chèques. Je me souviens que dans une de vos chroniques sur France Inter, Dominique Cieux, vous les aviez comptées. Il y en avait une dizaine, hein, donc des chèques vélo, chèques fuel, chèques carburant, chèques téléphone portable, chèques bois, chèques Noël, chèques... c'est très bien ces chèques, mais est-ce que ça ne vous renvoie pas là aussi à votre propre situation ? Faut que je ne vis plus de mon travail, mais je vis d'une aumône en remplissant des paperasseries pour que l'État m'aide à sortir la tête de l'eau.
C'est vrai que ça renvoie à un sentiment de précarisation et ça alimente cette envie de nouveaux chèques. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a des chèques pour les autres, vous dites bah, « et moi, je veux aussi mon chèque ». Et donc ça donne du grain à moudre à cette
idée. Pourquoi j'en ai pas ?
Voilà, c'est l'État qui doit vous donner quelque chose, c'est pas votre travail qui le donne. Et on voit la même chose du point de vue des aides aux entreprises, où il y a eu l'aide boulanger, par exemple. Et du coup, bah, c'est d'ailleurs une attaque de l'opposition. Xavier Bertrand disait pourquoi pas une aide boucher, une aide ébéniste, une aide charcutier. Et où, en effet, les corporations disent à l'État, chacun veut son aide. Donc, il y a un peu chaque individu, en fonction de s'il roule, comment il se chauffe, comment il se loge, demande son chèque. Et chaque profession, maintenant, demande son aide. Donc, on voit bien que pour l'État, il y a le danger d'avoir mis le doigt dans un engrenage infernal, parce que le jour où vous dites stop, eh ben, ceux qui n'ont pas eu disent « et moi ». Et là, c'est ce qui se passe avec notamment les PME, parce que l'État vient de débloquer une aide pour les TPE qui consomment beaucoup d'énergie en plafonnant le prix de l'énergie. Mais du coup, les TPE, c'est en dessous de 10 salariés. Enfin, celles qui disent ah, « ben, moi, j'en ai un de plus ».
Je veux mon chèque.
Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Donc en fait, vous créez des effets de seuil. C'est tout le problème des chèques, c'est que vous créez de la complexité administrative pour tout le monde. Ensuite, les gens disent « ah, mais moi, j'étais mal informé ». Donc vous devez créer des guichets uniques et des numéros de téléphone pour comprendre quelles sont les aides. Il y a beaucoup de sites internet du service public qui essayent de résumer les aides parce que tout le monde est perdu dans le maquis d'aide. Et vous avez des gens qui ne savent plus quelle aide ils doivent demander. Donc au final, certaines personnes disent que ça ne va plus, il faut arrêter cette politique des aides parce qu'on voit bien que c'est une pente très glissante.
Et c'est vrai que Dominique Seux, on voit le réflexe hein, quand on a un problème de pouvoir d'achat, on ne se tourne pas vers son patron. On se tourne vers l'État et en disant « et mon chèque ».
Et d'ailleurs, c'est le grand étonnement et une spécificité française, c'est que les mouvements sociaux, et c'est lié avec le sujet précédent, les mouvements sociaux ont lieu sur les retraites en France tous les 5-6 ans, mais assez peu sur les salaires. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quand vous avez eu des grands mouvements sociaux ces derniers mois, c'était IG Metall, c'est sur les salaires pour augmenter. Et ce serait quand même plus logique. C'est-à-dire qu'on se bat sur le plan social pour augmenter les rémunérations. Mais on voit aussi, et je fais encore le lien avec le sujet précédent, c'est que ces Français qui sont à quelques euros près, ils entendraient avec assez de curiosité, ils entendent avec curiosité tous ceux qui disent ah ben, la réforme des retraites, on pourrait s'en passer, il suffirait d'augmenter un peu les cotisations. Ouais. C'est une petite musique qu'on entend ces derniers jours. Il suffirait d'augmenter de quelques euros, quelques dizaines d'euros les cotisations salariales ou sociales pour financer le trou des retraites. Ben, non, en réalité, le pouvoir d'achat.
Pas dire, on est quelques...
Le matin, ouais. Matin, midi et soir, il y a un problème de pouvoir d'achat, et le soir, dire la réforme des retraites.
Mais le point,
c'est la hausse des cotisations.
Le point positif de la politique actuelle, il faut quand même le dire, c'est que l'État, en faisant ça, a limité la boucle prix-salaire, c'est-à-dire que l'État n'a pas laissé les salariés seuls négocier pour des salaires face aux entreprises. Et certains économistes disent que c'est bien parce que dans d'autres pays, c'est la foire d'empoigne et il y a un peu une boucle prix-salaire. Alors qu'en France, peut-être qu'au final, comme on a beaucoup limité les demandes salariales parce qu'on a beaucoup distribué, on n'aura pas d'engrenage de la boucle prix-salaire.
En tous les cas, pour reprendre l'excellent titre de l'émission, Fanny Guinochet, retraite, pouvoir d'achat, trop, c'est trop. Non, mais il y a un risque sérieusement de finalement, ces deux combinés, ce ressentiment sur je n'ai plus de pouvoir de vivre, et en plus, ça va durer jusqu'à 64 ans.
Je pense qu'il y a un risque de rancœur, surtout de sentiment de déclassement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Bruno Le Maire, souvent, rappelle la grandeur de la France, dit qu'il faut être optimiste, il faut faire confiance aux Français, on va y arriver. Regardez EDF, par exemple, ça ne marchait plus. Puis maintenant, tout d'un coup, les ingénieurs EDF se sont mis et on retrouve une performance. C'est surtout ça, c'est de se dire, bah, finalement, mais ça fera l'objet certainement d'une autre émission, Axel, finalement, on paye beaucoup, on travaille plus, on serre la ceinture, et puis on va à la poste et vous n'arrivez pas à trouver un timbre. Vous allez à l'hôpital, vous attendez 10 heures aux urgences, vous n'avez plus de médecin de ville, vous allez prendre votre train et ça ne fonctionne pas. Et le sentiment du déclassement, il passe aussi par le sentiment de, en échange, le modèle social qu'on a tant vanté, voilà, tous ces services, l'école, est-ce qu'il y a un prof, et bien finalement, se délite. C'est surtout ça le risque.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On attend donc la conférence de presse d'Elisabeth Borne ce soir à 17h30. À 20h, elle sera au journal de France 2. Et à 20h30, elle sera sur ce plateau, à votre place, Fanny, pour répondre aux questions d'Adrien, des téléspectateurs, avec Adrien Rouard et Lucie Chaumette. Bonne journée sur France 2. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée. À demain.